Voilà, il y a un diaporama qui va venir. Donc, on va. Le texte de base, un peu, que le Seigneur m'a donné pour ce matin, c'est Acte 16. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre. Hein. On ne va pas lire tout le chapitre, ce serait trop long. Il y a plusieurs épisodes. Je reprends mon micro, pardon. Et donc, ce chapitre, il relate le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et un voyage qu'il a amené notamment en Macédoine. On ne va pas lire donc le chapitre entier, mais on va lire ce qui entoure deux épisodes de ce chapitre. Deux épisodes. Et on va se poser deux questions à partir de ces deux récits. Deux questions. Deux épisodes, deux questions. Deux récits, deux questions. Acte 6, je vais commencer à lire. 16, pardon, 16. 6 à 10. Acte 16, 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Voilà, premier épisode. La vision de Paul avec ce Macédonien qui appelle au secours. Le mot grec pour secours est boéthéos. Il vient d'un autre mot qui se rapporte à un cri. On pourrait donc traduire secours-nous par entends nos cris. Et Paul apprend à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et cette vision du Macédonien qui crie au secours l'amène à changer ses plans. Hein, il en conclut qu'il fallait qu'il aille annoncer la bonne nouvelle en Macédoine plutôt que dans les provinces de l'Asie. Alors la première question qui se pose à nous ce matin et que le Seigneur nous pose est celle-ci. Et nous, entendons-nous les cris des perdus? Première question. Entendons-nous le cri des perdus? Le Dieu de la Bible, auquel nous croyons, c'est un Dieu qui entend ceux qui crient à lui, hein, qui n'y est pas insensible, c'est un Dieu qui désire répondre à ses cris. En Exode 2, 23, il est dit que les Israélites gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Et il est écrit que leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Et un peu plus loin, il est dit, si tu les accables et qu'ils crient à moi, c'est une parole adressée à Pharaon, je saurai entendre leurs cris. En Jonas 3, verset 8, il est dit que les habitants de Ninive, hommes et bêtes, ont été couverts de sacs. Et ils ont crié à Dieu avec force, changeant même leur conduite. Et Dieu prit de pitié à changer sa décision de frapper la ville en réponse à ses cris. Mais il y a un verset que j'ai retenu, que j'aime beaucoup. C'est dans le... Oui, voilà. Ah bah tiens, j'étais en retard sur mon diaporama. Voilà. Attends, j'étais en retard, voilà. Je m'aperçois que j'étais en retard. Ouais, les cris des perdus. Vous voyez là, c'est un jeune... Un jeune qui appelle au secours. Quelqu'un d'autre aussi. Vous ne croyez pas qu'ici, dans ce quartier, il y a des jeunes comme ça? Certainement. Et certains ont un profond sentiment d'abandon. Et qui sait que dans leur cri, certains ne crient pas à Dieu sans le connaître. Sans le connaître déjà. Entendons-nous les cris des perdus? Alors moi j'aime beaucoup ce verset, psaume 147, verset 9. Il donne sa nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Vous vous rendez compte? Dieu, il entend les cris des petits corbeaux. Et quelquefois on pense qu'il ne pourrait pas entendre les cris des humains. il entend les cris des petits du corbeau. Oh, je trouve ça extraordinaire. Et au début de ce mois, c'était vendredi 6 septembre, je voulais préparer mon message à l'avance puisque on partait une semaine. Et j'étais dans un temps de méditation et je priais déjà pour ce message à donner aujourd'hui. J'avais déjà le thème, acte 16. J'avais l'épisode de la vision du Macédonien, j'avais la question « Entendons-nous les cris des perdus ?» Et j'ai fait cette demande très précise au Seigneur. J'ai dit « Seigneur, fais-moi encore entendre les cris des perdus. » C'était vendredi matin, avant le petit déjeuner. Dans l'heure qui a suivi, au milieu du petit déjeuner, j'ai une réponse à ma prière déjà. Incroyable. Au milieu du petit déjeuner, le Seigneur n'a pas tardé à me répondre de manière très précise. Je regardais rapidement ma boîte mail pour consulter mes messages. Et mes yeux se sont arrêtés sur un mail du SEL, service d'entraide, liaison. Et souvent, vous savez, ce genre de message, je vous le lirai plus tard. Ouais. Mais là, je ne sais pas, j'étais poussé à... Parce qu'il y avait le mot « crise » dedans, dans le titre. J'étais poussé à le lire tout de suite. Et ça signalait une situation de crise au Burkina Faso. Et je lisais entre autres ceci. Vous savez, on n'entend pas toujours parler aux informations de ces choses-là, mais heureusement que Dieu, lui, il entend. Hein. Les attaques terroristes au Mali, ainsi qu'au nord et à l'est du Burkina Faso, continuent à sévir. À l'heure actuelle, les terroristes attaquent et pillent les villages, les commerces, et tue plus ou moins aveuglement les villageois, laissant des familles traumatisées par cette violence. Les villages se vident et les habitants s'enfuient et rejoignent des villes plus sûres et trouvent refuge soit dans des camps de réfugiés, dans des écoles ou encore chez de la parenté. Nos partenaires chrétiens locaux viennent en aide aux déplacés particulièrement vulnérables comme les personnes âgées, les femmes seules, chefs de famille, les personnes en situation de handicap, mais également les familles accueillant des membres de leur parenté. Déjà vulnérables, ces familles d'accueil ont du mal à supporter le poids d'une deuxième famille à charge. Et un partenaire témoigne, écoutez bien ceci, le soir, les enfants ont tellement faim qu'ils se mettent à pleurer. Les mamans font alors semblant de préparer à manger. Elles prennent une marmite dans laquelle elles versent de l'eau pour calmer l'enfant. Je reçois cette information dans l'heure qui suit ma prière. Je dis, mais c'est une réponse. C'est une réponse. Alors si Dieu entend les cris des petits, des corbeaux, il entend les cris des enfants, de leur maman. Et il veut se servir de nous aussi pour répondre à ces cris. Vous pensez bien que, voyant que c'était une réponse claire à ma prière, elle m'invitait bien sûr à une réponse concrète et personnelle de ma part, bien sûr. Luc 18:7 dit ceci, « Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Est-ce que les élus, c'est seulement des chrétiens bien affermis qui attendent le retour du Seigneur? Je vous suggère d'élargir cette pensée et de ne pas limiter ce verset à cette catégorie de personnes, mais je vous suggère d'élargir votre pensée et de voir dans ces élus beaucoup qui crient à Dieu dans leur grande souffrance, la faim, la nudité, l'oppression, la dépression, sans peut-être le connaître, mais attendant son secours, pour le découvrir ensuite. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que la volonté souveraine de Dieu, celle de venir au secours de ces petits qui crient, elle passe par nous, qui voulons bien entendre ces cris et y répondre, à la fois de manière concrète, mais aussi dans la prière. Vous pensez bien que j'étais poussé aussi, en plus d'un acte concret, à prier régulièrement pour ces enfants, pour que la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu leur soit révélé. Entendons-nous les cris des perdus. J'ai prié pour ça aussi. Il y a ces jeunes, il y a ces enfants, mais on peut élargir. Dieu m'a parlé, il m'a dit, prie pour les agriculteurs, les policiers, qui ont un taux record de suicide en ce moment en France. N'y a-t-il pas parmi eux des hommes et des femmes qui crie même à Dieu sans le connaître. Sans le connaître. En 2006, j'ai retrouvé ça dans mes notes, on était allé écouter, Annette et moi, accompagnés de deux autres personnes, à Paris. On est allé écouter Heidi Baker, vous savez, qui est missionnaire au Mozambique et qui s'occupe de milliers d'orphelins. Et elle avait donné un message bouleversant, jamais vu un titre comme ça, comme message, mais bon. Et son titre, c'était « Où sont mes amoureux à la recherche de mon église perdue ?» Où sont mes amoureux à la recherche de mon église perdue ? Et dans ce titre, il y a cette vérité incontournable. Les amoureux de Jésus sont à la recherche de l'église perdue. Les amoureux de Jésus sont à la recherche de l'église perdue. Jésus n'est-il pas ce bon berger qui cherche la brebis perdue, celle qui est égarée, qui est en danger d'être dévorée par les loups? Jésus cherche cette brebis à travers nous. Jésus cherche cette brebis à travers nous. Et je me souviens qu'au retour de Paris, on avait toute l'église écouté ce message. Donc là, peut-être Jacques, Christine s'en souviennent. Je crois que c'est les plus anciens parmi nous. Et les autres, vous n'y étiez pas, je pense. Peut-être Raphaël, Didier, Sylvie, je pense pas que vous étiez là. On avait regardé ce message sur vidéo, puisqu'on l'avait. Et on a pris ensuite des initiatives. On avait ouvert des agapes et on avait aussi... pris l'initiative de faire un geste prophétique vis-à-vis des habitants du quartier en offrant à ceux qui habitaient autour de la salle un bouquet de belles jonquilles le dimanche de Pâques pour dire notre amour. Alors c'est une question et une suggestion ce trimestre. Est-ce qu'on pourrait faire cette prière? Seigneur, fais-nous entendre ces cris. Un peu comme Rémi nous a si bien expliqué dans le déroulement du rouleau, hein, pour discerner quelles sont les œuvres de Dieu. Dans les œuvres de Dieu, il y a le fait d'être envoyé, d'être guidé par l'Esprit, guidé par les cris que nous entendons, par l'Esprit qui nous fait entendre les cris des perdus, et envoyé vers cela. Dans des gestes concrets, en même temps que l'annonce de la parole, la prière. Parce qu'il y aura toujours, il faut prier pour la révélation de l'amour de Dieu, mais c'est souvent associé à des actes concrets. Alors on va plus loin maintenant dans ce récit d'acte 16, et je pense volontairement, donc je passe l'épisode de la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. C'est pas inintéressant, mais on peut pas tout faire en un message. Et donc pour aller directement au verset 16 qui va nous amener dans la prison de Néapolis où furent enfermés Paul et Silas. Acte 16, 16 à 34. Je lis le début. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voilà, j'avais oublié une diapo. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Je rappelle le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Peut-être un instant, Paul et Silas se sont posé la question, mais pourquoi avons-nous fait ce grand voyage pour nous retrouver en prison? Mais Paul et Silas n'étaient pas en décalage par rapport à leur vocation. Ils avaient compris que l'objet de leur voyage, c'était que d'autres entendent parler ou chanter les merveilles de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans cette prison. Au mois de juin, on était 2 semaines en Vanoise avec Annette. On a visité 2 amis près de Grenoble et on est allé assister à un culte à Voiron. Et c'était une prédication sur Paul et Silas en prison. Et j'entendais résonner la voix du Seigneur à travers la prédication, à travers le prédicateur. Pourquoi sommes-nous réunis en église ici? Et la réponse était pour répondre aux cris des perdus et leur permettre d'entendre les merveilles de Dieu. Cette parole m'a tellement percuté que j'ai fondu en larmes tout le reste du culte. Chers amis, pourquoi sommes-nous rassemblés ici, rue des Roseaux, au Havrin? Bien sûr, pour adorer Dieu, le servir. Bien sûr, pour nous faire du bien. Mais encore, pour reprendre ce qui vient d'être dit au début de ce message, pour répondre aux cris des perdus. Ici, dans ce quartier, dans Havrin, dans toutes ces villes, ces villages, et de permettre qu'ils entendent les merveilles de Dieu. Alors avant d'aborder la deuxième question, je veux souligner une raison majeure de notre présence ici, salle des Roseaux, pour répondre à ceux qui crient, pour être à la recherche de l'Église perdue. Nous sommes des amoureux de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes des amoureux à la recherche de l'Église perdue. Ceux qui sont tout près d'ici, ceux qui peuvent être au loin. Les apôtres ici ne s'appuient pas sur leur sort. Ils ne sont pas fixés sur les coups qu'ils ont reçus. Sur la noirceur de leur cachot, ça ne devait pas être terrible, franchement. Il devait y avoir des rats, puis ils étaient enchaînés. Ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes, leur confort n'est pas leur objectif. Ils sont décentrés d'eux-mêmes et centrés sur Dieu. Ils chantent les merveilles de Dieu. Et voyez le résultat, les chaînes des prisonniers tombent. Les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier, toute sa famille se convertit. Croyons-nous cela possible pour nos chaînes à nous, les chaînes de ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on croit que c'est possible? Et c'est la deuxième question. Ouais, ça, je l'ai dit. Croyons-nous encore à la puissance de la louange? Oh, le Seigneur nous pose la question. Croyons-nous encore à la puissance de la louange?
Oui.
Amen. Et ce qui peut nous aider en cela, c'est de voir les événements et particulièrement les problèmes selon la perspective de Dieu. Facile à dire, plus difficile à faire, hein, je reconnais. Hein. À moi, quand je suis dans les problèmes, j'ai un moment, bien sûr, vous savez, je suis comme tout le monde. Hein, ouais. Mais je m'exhorte à moi-même aussi, hein, je ne me sens pas meilleur que les autres, du tout. Et il y a un verset, Dieu m'a parlé à travers un verset, le psaume à ce sujet. Psaume 139, 17, 18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu m'a parlé à travers ce verset. Boum, pardon. Ah, voilà. Il m'a invité à considérer mes problèmes comme des grains de sable. Certes, des grains de sable, ça peut enrayer des machines, mais ils ne sont que des grains de sable qui peuvent être balayés, déplacés en un rien de temps. Et ils sont bien moins nombreux que les pensées de Dieu, que les créativités de Dieu pour m'aider à me sortir de tout ça. Ces pensées sont impénétrables, il m'est extrêmement difficile de les comprendre avec mes sens naturels, avec ma chair. Comment comprendre que Dieu peut tirer du bien de cette séance de coups pour Paul et Silas et de cet enchaînement, de cette mise en prison? Pourtant, quand on voit la fin, comment comprendre que Joseph doit passer par un séjour dans une fosse, abandonné de ses frères, qu'il doit ensuite être l'esclave d'un autre, qu'il doit encore passer quelques années en prison pour une faute qu'il n'a pas commise? Et pourtant, quelle fin a eu Joseph? Nommé à la tête d'une nation juste sous Pharaon, il sauve son peuple et le peuple égyptien de la famille. En Dieu, en Jésus, Fils de Dieu, celui qui a déclaré qu'il sera avec nous tous les jours, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui se trouve une créativité extraordinaire qui fait que je peux considérer mes problèmes comme des grains de sable. Ah, vous êtes prêts? On est prêts cette semaine? Allez, on va considérer les problèmes qui nous arrivent comme des grains de sable. Pour chaque problème, le Seigneur sait comment nous tirer d'affaire et il sait ce qu'il prépare. Notre louange atteste notre confiance en Dieu. Elle atteste que nous voyons selon sa perspective et qu'on s'attend à le voir à l'œuvre pour que d'autres voient ou entendent ses merveilles. N'oublions jamais ce but final. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce lieu? La piscine des WEP. Bon, c'est un petit rappel, puisque j'ai déjà donné ce témoignage, un rappel très vite. Hein, sinon, vous pouvez l'écouter, parce que je ne vais pas m'étendre trop, mais à la piscine des WEP, j'ai éraflé une voiture avec ma voiture, une voiture bien garée. Et sur le coup, j'étais en colère, j'ai pris un chiffon, j'ai voulu nettoyer, j'ai dit certainement, ça ne va pas se voir, mais non, ça se voyait encore très fort, c'était une voiture noire, une belle voiture neuve. Et j'étais un peu en colère contre moi-même, et j'ai, hop, un instant, je dis, bon, dans le fond, ni vu ni connu, peut-être je peux partir. Puis une voix qui me dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et il y a même une voix qui m'a dit, loup, loup. Loue le Seigneur dans cette circonstance. Loue. 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 Alors je me suis mis à louer. Je me suis mis à louer et j'ai mis un papier avec mes coordonnées et j'ai entendu comme une voix qui me dit « Il y a là un rendez-vous divin. » Ouais. Et puis donc, voilà, les autres, vous connaissez la suite. Donc j'ai téléphoné au mari qui m'a appelé, on a pris rendez-vous, etc., qui était très gentil, très bienveillant, qui a tout fait pour éviter que mes problèmes, qu'on fasse un constat. On s'est arrangé pour que... Alors que c'était pas évident, il y en avait au moins pour 500 ou 700 euros, je crois. Mais bon, il a accepté que je règle des choses de peinture, donc beaucoup moins cher, évidemment. Et puis en partant, je lui dis quand même, il faut que je lui dise quelque chose. Et puis je lui dis, écoutez, je suis chrétien, je vais prier pour vous. Puis il s'est tourné vers moi, il dit, vous savez, ce qui arrive là, ce week-end, mon épouse vient d'être emmenée à l'hôpital pour une tumeur au cerveau. Alors j'ai dit, écoutez, toute cette semaine, je vais prier avec mon épouse pour vous. Et on a prié toute la semaine avec Annette. Une semaine après, je téléphone pour prendre des nouvelles, pas de nouvelles, etc. Et puis au bout de... Je laisse un message quand même. Et au bout de 2 jours, j'ai un SMS de la dame qui me remercie et qui témoigne dans son SMS en disant... Écoutez, ça doit être les prières qui ont fait ça parce que vraiment, je sors d'une très lourde opération et ce sont certainement les prières qui m'ont fait que je sorte indemne de cette lourde opération. Merci pour votre bienveillance. Je devais prêcher le dimanche suivant sur la bienveillance. Vous voyez, le timing de Dieu. Vous voyez, mais le point important... C'est contrariant quand même, dérafler une raflure alors qu'elle était bien garée, enfin vraiment, c'est assez contrariant, risque de perdre un bonus, enfin etc. Louer, louer, louer. La louange, c'est la louange personnelle, mais c'est la louange ensemble aussi. Et je termine, parce que je vois que je termine, avec le psaume 149. Avec le psaume 149. J'ai regardé sur Internet, je voulais compléter quelque chose sur la puissance de la louange. J'ai écouté une prédication extraordinaire de Luc Dumont, je ne sais pas si certains connaissent. Oui, ça vous dit quelque chose. Vous pouvez trouver, il est chanteur aussi. Ouais. Et donc, il donnait une prédication sur la puissance de la louange. Et j'étais édifié par une toute petite exhortation à partir du psaume 149. Et je termine avec ça. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Louange vient de Tehila en hébreu, qui veut dire qui raconte, qui proclame les actions, les attributs de Dieu. Et nouveau vient de Chadash en hébreu, qui veut dire rajeunir, revivre, reverdir. La louange amène le renouveau de Dieu. Est-ce que vous le croyez? La louange amène, on devrait y réfléchir quand on loue, soit chez soi, tout seul, ou soit ensemble. La louange amène le renouveau de Dieu. On dit amen, amen. Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Oui. Voilà. C'est le premier bénéfice de la louange. Elle amène le renouveau de Dieu. Dans la louange, nous proclamons le nouveau de Dieu. Dans la louange, il est possible de reprendre vie. Dans l'Ancien Testament, un cantique nouveau faisait toujours référence à la rédemption de Dieu. Et chante. C'est important de chanter des nouveaux chants dans l'église, hein, et je crois que là on est bien aidé avec le groupe qui est là. Hein. On peut chanter des chants nouveaux. On annonce le nouveau de Dieu. Le Seigneur veut reverdir nos vies, redonner un nouveau son à notre vie. Et psaume 149, versets 2 et 5. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Allégresse vient de Gil en hébreu, qui veut dire se réjouir, avoir de la joie, tressaillir de joie. Et cri de joie vient de Hanan en hébreu, qui veut dire vaincre et se réjouir. Vaincre et se réjouir. Waouh! Vaincre et se réjouir. Ou se réjouir et vaincre. On pourrait le mettre dans l'autre ordre. La louange amène l'allégresse et la victoire. C'est le deuxième bénéfice. C'est pour ça que l'ennemi veut voler la louange. Ouais. Eh bien, on va résister. N'oublions pas où doit être la source de notre joie, bien sûr. Hein. Réjouis-toi en celui qui t'a créé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Notre joie dépend de lui. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je termine avec ce témoignage. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est un arche qui se trouve du côté du Luxembourg, au-dessus de l'autoroute. Oui ? C'est pas loin du Luxembourg ? Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors Luc Dumont nous raconte cette histoire incroyable. Si vous allez sur Internet, vous pourriez l'entendre. Il disait qu'il était invité à un concert de louanges dans ce genre d'arche, au-dessus de l'autoroute, au Luxembourg. Donc je ne sais pas si c'est exactement celui-là ou un autre, peu importe. Oui, oui, c'est ça. Et donc, déjà, il était un peu... Il disait que c'est bizarre quand même ce lieu pour un concert. Il voyait que les gens rentraient, passaient, allaient aux toilettes. Il dit, je ne vais pas faire un concert de louanges ici, c'est pas possible. Et il a failli renoncer. Il a dit, mais quelle idée j'ai eue de répondre, de dire oui à ce pasteur qui m'a invité à faire un concert de louanges à cet endroit. C'est pas possible. Et puis, bon, il y avait un combat. Et au moment du concert, bon, ici, il a prié le Seigneur. Au moment du concert, d'un seul coup, la crainte est partie. Il a vu une salle pleine. Et d'un seul coup, l'atmosphère a changé. Il y avait une présence de Dieu dans ce concert de louanges incroyable. Une présence de Dieu incroyable. Avec vraiment les gens très participants et entrant dans la louange. Et à la fin de cette soirée de louange, une femme vient la voir, et Luc la connaissait. Et cette femme a pris le prédicateur dans ses bras. Ils se connaissaient un peu, hein, ouais. Et puis elle a témoigné, elle a dit... Écoutez, je suis arrivé dans ce lieu, je devais faire demi-tour. Parce que je dis, non, c'est pas possible, je n'irai pas à un concert de louanges dans ce lieu, sous cette arche, son mari est mort d'un accident de voiture. Et elle dit, écoutez, Luc, c'est la première fois que j'ai retrouvé la joie dans cette soirée de louanges depuis le décès de mon mari. J'étais libéré d'un poids de tristesse, j'ai trouvé la joie. Première fois. Alléluia.